Chapitre 5, le champ de bataille, l'hôpital du Gros Caillou. Nous avons essayé de raconter les terribles événements qui s'étaient passés au champ de Mars dans l'après-midi du 17 juillet 1791. Essayons de donner une idée du spectacle que présentait le théâtre après avoir mis sous les yeux de nos lecteurs le tableau du drame qui venait de s'y jouer et dont Bailly et Lafayette avaient été les deux principaux acteurs. Ce spectacle était celui qui frappa un jeune homme vêtu en officier de la garde nationale qui, débouchant de la rue Saint-Honoré, avait traversé le pont Louis XV et abordait le Champ de Mars par la rue de Grenelle. Ce spectacle qu'éclairait une lune aux deux tiers de sa période croissante et roulant entre de gros nuages noirs dans lesquels elle se perdait de temps en temps était lugubre à voir. Le Champ de Mars avait l'aspect d'un champ de bataille couvert de morts et de blessés, au milieu desquels erraient comme des ombres des hommes chargés de jeter les morts à la Seine et de porter les blessés à l'hôpital militaire du Gros Caillou. Le jeune officier que nous suivons depuis la rue Saint-Honoré s'arrêta un instant à l'entrée du Champ de Mars et, joignant les mains avec un geste de naïve terreur, « Jésus-Dieu » murmura-t-il, « la chose a donc été pire encore qu'on ne me l'avait dit. » Puis, après avoir regardé pendant quelques minutes l'étrange opération qui s'accomplissait, s'approchant de deux hommes qu'il voyait porter un cadavre du côté de la Seine, « Citoyens, leur demanda-t-il, voulez-vous bien me dire ce que vous allez faire de cet homme ?»« Suis-nous, » répondirent les deux hommes, « et tu le verras. » Le jeune officier les suivit. Arrivés sur le pont de bois, les deux hommes balancèrent le cadavre en comptant un, deux, trois, et au troisième coup, ils jetèrent le corps dans la Seine. Le jeune homme poussa un cri de terreur. « Mais que faites-vous donc, citoyen ? » demanda-t-il. « Vous le voyez bien, mon officier, » répondirent les deux hommes. « Nous déblayons le terrain. »« Et vous avez des ordres pour agir ainsi ?»« Apparemment. »« De qui ?»« De la municipalité. » »« Oh !» fit le jeune homme stupéfait. Et puis, après un moment de silence, et étant rentré avec eux dans le Champ de Mars, « Avez-vous déjà jeté beaucoup de cadavres à la Seine ?»« 5 ou 6, » répondit un des deux hommes. « Pardon, citoyen, » reprit le jeune homme, « mais j'ai un grand intérêt à la question que je vais vous faire. Parmi ces 5 ou 6 cadavres, avez-vous remarqué un homme de 46 ou 48 ans, de 5 pieds 5 pouces à peu près, trapu, vigoureux, moitié paysan, moitié bourgeois ?» « Ma foi, dit un des hommes, nous n'avons qu'une remarque à faire. Si les gens couchés là sont morts ou vivants, s'ils sont morts, nous les jetons à la rivière, s'ils ne sont pas morts, nous les transportons à l'hôpital du Gros Caillou. »« Ah, dit le jeune homme, c'est que j'ai un de mes bons amis qui n'est pas rentré chez lui. Comme on m'a dit qu'il était ici, qu'on l'y avait vu une partie de la journée, j'ai bien peur qu'il ne soit parmi les blessés ou les morts. » Dame, dit un des deux porteurs en secouant un cadavre, tandis que l'autre l'éclairait avec une lanterne. S'il était ici, il est probable qu'il y ait encore. S'il n'est pas rentré chez lui, il est probable qu'il n'y rentrera pas. Puis redoublant la secousse qu'il imprimait à ce corps gisant à ses pieds, « Hé !» cria l'homme de la municipalité, « es-tu mort ou vivant ? Si tu n'es pas mort, tâche de répondre. Oh, »« Quant à celui-là, il l'est bien, dit le second. Il a reçu une balle au beau milieu de la poitrine. » « Alors, à la rivière !» dit le premier. Et les deux hommes soulevèrent le cadavre et reprirent le chemin du pont de bois. « Citoyen, dit l'officier, vous n'avez pas besoin de votre lanterne pour jeter cet homme à l'eau. Ayez l'obligeance de me la prêter un instant. Pendant que vous ferez votre course, moi, je chercherai mon ami. » Les porteurs consentirent à la demande et la lanterne passa dans les mains du jeune officier, lequel commença sa recherche avec un soin et une expression de physionomie indiquant qu'il avait donné aux morts ou aux blessés dont il s'enquérait un titre qui sortait non seulement de ses lèvres, mais encore de son cœur. 10 ou 12 hommes armés comme lui de lanternes se livraient comme lui à la funèbre recherche. De temps en temps, au milieu du silence, car la terrible solennité du spectacle semblait, à l'aspect de la mort, éteindre la voix des vivants, de temps en temps, au milieu du silence, un nom prononcé à haute voix traversait l'espace. Parfois, une plainte, un gémissement, un cri répondait à cette voix, mais le plus souvent, elle n'obtenait pour réponse qu'un lugubre silence. Le jeune officier, après avoir hésité, comme si la voix fût enchaînée par une certaine terreur, suivit l'exemple qui lui était donné, et par 3 fois cria « Monsieur Billot ! Monsieur Billot ! Monsieur Billot !» Mais aucune voix ne lui répondit. Oh, bien sûr qu'il est mort, murmura-t-il en essuyant avec sa manche les larmes qui coulaient de ses yeux. Pauvre monsieur Billot! En ce moment, deux hommes passaient près de lui, emportant un cadavre vers la Seine. Hé! Hey, dit celui qui soutenait le torse, et qui, par conséquent, était le plus près de la tête, je crois que notre cadavre vient de pousser un soupir. Bon, dit l'autre en riant, si l'on écoutait tous ces gaillards-là, il n'y en aurait pas un de mort. Citoyen, dit le jeune officier, par grâce, laissez-moi voir l'homme que vous portez. Oh, volontiers, mon officier, dirent les deux hommes. Et ils assirent le cadavre sur son derrière pour donner plus de facilité à l'officier d'éclairer son visage. Le jeune homme approcha la lanterne et poussa un cri. Malgré la blessure terrible qui le défigurait, il croyait avoir reconnu l'individu qu'il cherchait. Seulement, était-il mort ou vivant? Celui qui avait déjà fait la moitié du chemin vers son humide tombeau avait eu la tête fendue d'un coup de sabre. La blessure, comme nous l'avons dit, était terrible. Elle avait détaché tout le cuir chevelu du pariétal gauche qui pendait sur la joue, laissant à découvert l'os du crâne. L'artère temporale avait été coupée, de sorte que tout le corps du blessé ou du mort était inondé de sang. Du côté de la plaie, le blessé était méconnaissable. Le jeune homme porta d'une main tremblante la lanterne de l'autre côté. « Oh, citoyen ! S'écria-t-il, c'est lui, c'est celui que je cherche, c'est monsieur Billot !»« Oh, diable ! Fit un des deux hommes, eh bien, il est un peu avarié, votre monsieur Billot !»« N'avez-vous pas dit qu'il avait poussé un soupir ?»« J'ai cru l'entendre, du moins. Alors, faites-moi un plaisir !» L'officier tira un petit écu de sa poche. « Lequel ?» demanda le porteur, plein de bonne volonté à la vue de la pièce de monnaie. « Courez jusqu'à la rivière et apportez de l'eau dans votre chapeau. »« Volontiers !» L'homme se mit à courir du côté de la Seine. Le jeune officier avait pris sa place et soutenait le blessé. Au bout de 5 minutes, le messager revint. « Jetez-lui de l'eau au visage !» dit le jeune homme. Le porteur obéit, il trempa sa main dans le chapeau et, la secouant comme on fait d'un goupillon, en aspergea le visage du blessé. « Il a tressailli !» s'écria le jeune homme, qui tenait le moribond entre ses bras. « Il n'est pas mort ! Oh, cher monsieur Billot, quel bonheur que je sois arrivé là !»« Ah, ma foi oui, c'est un bonheur !» dirent les deux hommes. « Encore 20 pas et votre ami revenait à lui dans les filets de Saint-Cloud. Jetez-lui de l'eau une seconde fois !» Le porteur renouvela l'opération, le blessé frissonna et poussa un soupir. « Allons, allons, dit le second porteur, décidément, il n'est pas mort. »« Eh bien, qu'allons-nous en faire ? Dit le premier. « Aidez-moi à le transporter rue Saint-Honoré, chez monsieur le docteur Gilbert, et vous aurez une bonne récompense, dit le jeune homme. « Nous ne pouvons pas. « Pourquoi ? Nous avons ordre de jeter les morts à la Seine et de porter les blessés à l'hôpital du Gros Caillou, puisqu'il prétend qu'il n'est pas mort et que, par conséquent, nous ne pouvons pas le jeter à la Seine. Nous devons le porter à l'hôpital. Eh bien, portons-le à l'hôpital, dit le jeune homme, et le plus tôt possible. Il regarda autour de lui. Où est l'hôpital? À 300 pas à peu près de l'école militaire. Alors, c'est par là? Oui. Nous avons tout le Champ de Mars à traverser. En longueur. Oh mon Dieu, n'avez-vous pas une civière ? Dame, cela peut se trouver, répondit le second porteur. C'est comme de l'eau, et avec un petit écu. C'est juste, dit le jeune homme, vous n'avez rien eu, vous. Tenez, voilà un autre petit écu. Trouvez-moi une civière. 10 minutes après, la civière était trouvée. Le blessé y fut étendu sur un matelas, les deux porteurs s'emparèrent des brancards et le lugubre cortège s'achemina vers l'hôpital du Gros Caillou, escorté du jeune homme qui, sa lanterne à la main, se tenait à la tête du blessé. C'était une chose terrible que cette marche nocturne sur un terrain inondé de sang au milieu des cadavres immobiles et roides que l'on heurtait à chaque pas ou des blessés qui se soulevaient pour retomber en appelant du secours. Au bout d'un quart d'heure, on franchissait le seuil de l'hôpital du Gros Caillou. À cette époque, les hôpitaux, et surtout les hôpitaux militaires, étaient bien loin d'être organisés comme ils le sont aujourd'hui. On ne s'étonnera donc pas du trouble qui régnait dans l'hôpital du Gros Caillou et de l'immense désordre qui s'opposait à l'accomplissement des désirs des chirurgiens. La première chose qui avait manqué, c'était les lits. On avait alors mis en réquisition les matelas des habitants des rues environnantes. Ces matelas étaient posés à terre, et il y en avait jusque dans la cour. Sur chacun d'eux était un blessé attendant du secours, mais les chirurgiens manquaient, comme les matelas, et étaient plus difficiles à trouver. L'officier, dans lequel nos lecteurs ont bien certainement reconnu notre vieil ami Pitou, obtint, moyennant deux autres petits écus, qu'on lui laissa le matelas de la civière, de sorte que Billot fut déposé assez doucement dans la cour de l'hôpital. Pitou, voulant prendre au moins à la situation le peu qu'elle avait de bon, avait fait déposer le blessé le plus près possible de la porte, afin de saisir au passage le premier chirurgien qui entrerait ou sortirait. Il avait grand envie de courir dans les salles et d'en amener un, coûte que coûte, mais il n'osait pas quitter le blessé. Il avait peur que, sous le prétexte que celui-ci était mort, on pouvait s'y tromper sans mauvaise foi, quelqu'un ne prît le matelas en jetant le prétendu cadavre sur le pavé de la cour. Pitou était là depuis une heure, appelant à grands cris les deux ou trois chirurgiens qu'il avait vus passer, sans qu'aucun d'eux répondît à ses cris, lorsqu'il aperçut un homme vêtu de noir, éclairé par deux infirmiers, et visitant l'une après l'autre toutes ses couches d'agonie. Plus l'homme vêtu de noir s'avançait du côté de Pitou, plus celui-ci croyait le reconnaître. Bientôt, ses doutes cessèrent et Pitou, se hasardant à s'éloigner de quelques pas du blessé pour s'approcher d'autant du chirurgien, cria de toute la force de ses poumons « Eh, par ici, monsieur Gilbert, par ici !» Le chirurgien, qui était en effet Gilbert, accourut à sa voix. « Ah, c'est toi, Pitou, » dit-il. « Oh, mon Dieu, oui, monsieur Gilbert !» « As-tu vu Billot ?»« Eh, monsieur, le voilà !» répondit Pitou en montrant le blessé, toujours immobile. « Est-il mort ?» demanda le docteur. « Hélas, cher monsieur Gilbert, j'espère que non, mais je ne vous cache pas qu'il n'en vaut guère mieux. » Gilbert s'approcha du matelas et les deux infirmiers qui les suivaient éclairèrent le visage du blessé. « C'est à la tête, monsieur Gilbert, » disait Pitou. « C'est à la tête. Oh, pauvre cher monsieur Billot, il a la tête fendue jusqu'à la mâchoire. » Gilbert regarda la plaie avec attention. « Ah, le fait est que la blessure est grave, » murmura-t-il. Puis, se tournant vers les deux infirmiers, « Il me faut une chambre particulière pour cet homme qui est de mes amis, » ajouta-t-il. Les deux infirmiers se consultèrent. « Il n'y a pas de chambre particulière, » dirent-ils, « mais il y a la lingerie. » « À merveille, » dit Gilbert, « portons-le à la lingerie. » On souleva le blessé le plus doucement possible, mais quelques précautions que l'on prit, il laissa échapper un gémissement. « Ah !» dit Gilbert, « jamais exclamation de joie ne m'a fait un plaisir égal à ce soupir de douleur. Il est vivant, c'est le principal. » Billot fut porté à la lingerie et déposé sur le lit d'un des employés. Puis aussitôt Gilbert procéda à son pansement. L'artère temporale avait été coupée et de là était venue une immense perte de sang. Mais cette perte de sang avait amené la syncope et la syncope, en ralentissant les mouvements du cœur, avait arrêté l'hémorragie. La nature en avait immédiatement profité pour former un caillot lequel avait fermé l'artère. Gilbert, avec une adresse admirable, lia d'abord l'artère au moyen d'un fil de soie, puis il lava les chairs et les réappliqua sur le crâne. La fraîcheur de l'eau et peut-être bien aussi quelques douleurs plus vives occasionnées par le pansement firent rouvrir les yeux à Billot, qui prononça quelques paroles empâtées et sans suite. « Il y a eu ébranlement du cerveau, » murmura Gilbert. « Mais enfin, » dit Pitou, « du moment où il n'est pas mort, vous sauverez, n'est-ce pas, monsieur Gilbert ?» Gilbert sourit tristement. « J'y tâcherai, » dit-il, « mais tu viens de voir encore une fois, mon cher Pitou, que la nature est un bien plus habile chirurgien qu'aucun de nous. » Alors Gilbert acheva le pansement. Les cheveux coupés autant qu'il était possible, il rapprocha les deux bords de la plaie, les assujettit avec des bandelettes de diachylon et ordonna qu'on eût soin de poser le malade presque assis, le dos et non la tête appuyée contre les oreillers. Ce fut seulement alors que, tous ses soins accomplis, il demanda à Pitou comment il était venu à Paris et comment, étant venu à Paris, il s'était trouvé là, juste à point nommé, pour secourir Billot. La chose était bien simple. Depuis la disparition de Catherine et le départ de son mari, la mère Billot, que nous n'avons jamais donnée à nos lecteurs comme un bien vigoureux esprit, était tombée dans une espèce d'idiotisme qui avait toujours été augmentant. Elle vivait, mais d'une façon toute mécanique, et chaque jour, quelque nouveau ressort de la pauvre machine humaine ou se détendait ou se brisait. Peu à peu, ses paroles étaient devenues plus rares, puis elle avait fini par ne plus parler du tout et même par s'aliter. Et le docteur Reynal avait déclaré qu'il n'y avait qu'une chose au monde qui pût tirer la mère Billot de cette torpeur mortelle, c'était la vue de sa fille. Pitou s'était aussitôt offert pour aller à Paris, ou plutôt il était parti sans l'offrir. Grâce aux longues jambes du capitaine de la garde nationale d'Aramon, les 18 lieues qui séparent la patrie de Demoustier de la capitale n'étaient qu'une promenade. En effet, Pitou était parti à 4 heures du matin, et entre 7h30 et 8h du soir, il était arrivé à Paris. Pitou semblait prédestiné à venir à Paris pour les grands événements. La première fois, il était venu pour assister à la prise de la Bastille et y prendre part, la seconde fois pour assister à la fédération de 1790, la troisième fois, il arrivait le jour du massacre du Champ de Mars. Aussi trouva-t-il Paris tout en rumeur. C'était du reste l'état dans lequel il avait l'habitude de voir Paris. Dès les premiers groupes qu'il rencontra, il apprit ce qui s'était passé au Champ de Mars. Bailly et Lafayette avaient fait tirer sur le peuple. Le peuple maudissait à plein poumon Lafayette et Bailly. Et puis tous les avaient laissés, Dieu et adorés, ils les retrouvaient renversés de leurs autels et maudits. Ils n'y comprenaient absolument rien. Ce qu'ils comprenaient seulement, c'est qu'il y avait eu, au Champ de Mars, lutte, massacre, tuerie, à propos d'une pétition patriotique et que Gilbert et Billot devaient être là. Quoique Pitou eût, comme on dit vulgairement, ses 18 lieues dans le ventre, il doubla le pas et arriva rue Saint-Honoré à l'appartement de Gilbert. Le docteur était rentré, mais on n'avait pas vu Billot. Le Champ de Mars, du reste, disait le domestique qui donnait ses renseignements à Pitou, était jonché de morts et de blessés. Billot était peut-être parmi les uns ou parmi les autres. Le Champ de Mars couvert de morts et de blessés. Cette nouvelle n'étonnait pas moins Pitou que ne l'avait étonné celle de Bailly et de Lafayette, ces idoles du peuple, tyrans sur le peuple. Le Champ de Mars couvert de morts et de blessés, Pitou ne pouvait se figurer cela. Ce Champ de Mars qu'il avait aidé, lui, 10 millième, à niveler, que son souvenir lui rappelait plein d'illuminations, de chants joyeux, de gaies farandoles. Couvert de morts et de blessés, parce qu'on avait voulu, comme l'année précédente, y fêter l'anniversaire de la prise de la Bastille et celui de la Fédération. C'était impossible. Comment, en une année, ce qui avait été un motif de joie et de triomphe était-il devenu une cause de rébellion et de massacre, hein? Quel esprit de vertige avait donc, pendant cette année, passé par la tête des Parisiens? Nous l'avons dit, la cour, pendant cette année, grâce à l'influence de Mirabeau, grâce à la création du club des Feuillants, grâce à l'appui de Bailly et de Lafayette, grâce enfin à la réaction qui s'était opérée à la suite du retour de Varennes, avait ressaisi son pouvoir perdu, et ce pouvoir se manifestait par le deuil et par le massacre. Le 17 juillet, vengeait les 5 et 6 octobre. Ainsi que l'avait dit Gilbert, la royauté et le peuple étaient manche à manche, restait à voir qui gagnerait la belle. Nous avons vu comment, préoccupé par toutes ces idées, dont aucune d'ailleurs n'avait d'influence pour ralentir sa marche, notre ami Ange Pitou, toujours vêtu de son uniforme de capitaine de la garde nationale d'Aramon, était arrivé au Champ de Mars par le pont Louis XV et la rue de Grenelle, juste à temps pour empêcher Billot d'être jeté comme mort à la rivière. D'un autre côté, on se rappelle comment Gilbert, étant chez le roi, avait reçu un billet sans signature, mais où il avait reconnu l'écriture de Cagliostro et dans laquelle se trouvait ce paragraphe « Laisse donc là ces deux condamnés qu'on appelle encore par dérision le roi et la reine, et rends-toi, sans perdre un instant, à l'hôpital du Gros Caillou, tu y trouveras un mourant moins malade qu'eux, car ce mourant, tu peux le sauver, tandis que, sans que tu puisses les sauver, t'entraîneront dans leur chute. » Aussitôt, comme nous l'avons dit, ayant appris par Madame Campan que la reine qui venait de le quitter, en l'invitant à attendre son retour, était retenue ailleurs et lui donnait congé, aussitôt Gilbert était sorti des Tuileries et, suivant à peu près le même chemin que Pitou, avait longé le Champ de Mars, était entré à l'hôpital du Gros Caillou, et avait déjà, éclairé par deux infirmiers, visité de lit en lit, de matelas en matelas, les salles, les corridors, les vestibules et même la cour, lorsqu'une voix l'avait appelé près de la couche d'un moribond. Cette voix, nous le savons, c'était celle de Pitou, ce moribond, c'était Billot. Nous avons dit l'état dans lequel Gilbert avait trouvé le digne fermier et les chances que présentait sa situation, chances bonnes ou mauvaises, mais dans lesquelles les mauvaises l'eussent certainement emporté sur les bonnes si le blessé eût eu affaire à un homme moins habile que le docteur Gilbert.